marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Édouard Glissant et la créolisation.
Je suis un écrivain de plantation. J'ai appris peu à peu à cerner le négatif de la plantation de manière, je crois, en essayant d'être lucide sur ce négatif. Mais j'ai appris aussi que sous ce négatif, il y avait cette dimension nouvelle qui apparaissait d'une autre humanité.
Pendant son enfance, son père, qui travaillait comme géreur pour le compte des planteurs, le faisait entrer en catimini dans les salons des becquets de Martinique. Beaucoup plus tard, quand il devint professeur à l'université de Bâton Rouge, il lui arrivait de se faufiler parmi les touristes qui visitaient les plantations de Louisiane. Et sur les murs, il retrouvait les mêmes portraits que dans son île, les ancêtres blancs toujours. Mais les Noirs des Caraïbes et d'Amérique, à quel clou aurait-il fallu accrocher leurs portraits s'ils avaient seulement existé? Puisque d'une terre inconnue, disait Glissant, c'est du ventre d'un navire négrier qu'ils étaient descendus. Glissant se méfiait des généalogies. Et lorsqu'on lui demandait de dessiner un arbre, il ne songeait pas d'abord aux racines, ni même à l'arbre seul, il dessinait une forêt. C'est la relation qui nous constitue, si on veut simplifier la géographie davantage que l'histoire. La relation, la créolisation, le tout monde, Glissant est souvent davantage cité que lu vraiment. La puissance de travail de ce colosse lui a pourtant permis de produire une œuvre considérable qui, selon lui, aurait mérité le Nobel. L'éclat des essais théoriques laisse peut-être trop dans l'ombre les poèmes, les pièces de théâtre, les romans. Son existence d'ogre mérite aussi l'attention. Elle a été faite de vies multiples. Dans les dernières années, il se tenait dans une relation triangulaire entre Paris, la Martinique et New York, défendant le créole à Paris, parlant le français aux étudiants américains. Les lieux improbables et les pratiques minoritaires sont souvent les plus fécondes. Et l'histoire, s'il faut revenir à elle, ne marche pas droit. Elle emprunte beaucoup de détours.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
François Nudelman, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Une biographie chez Flammarion, enfin une biographie qui n'est pas canonique. C'est pas le genre canonique qui vous intéresse.
J'espère que c'est une biographie un peu originale.
C'est-à-dire que vous ouvrez beaucoup de portes pour rechercher les émotions, l'imprévisible. Et Glissant n'aimait pas que les portes soient fermées d'ailleurs.
Oui, il était familier des archipels, des grands vents, des relations inattendues. Donc effectivement, une biographie ne peut pas s'en tenir, je crois, simplement à, en tout cas pas à la généalogie, vous l'avez rappelé, mais ni simplement à la chronologie des faits, des grands événements, des heures glorieuses. Et je crois que si on veut atteindre un petit peu le vécu, parce que le vécu c'est important dans la création des idées, des livres, eh bien alors à ce moment-là, il faut ouvrir des portes sur l'intime aussi, sur ce que Glissant mangeait, ce dont il rêvait, ce qu'il désirait, autant que ses livres.
On parlera tout à l'heure de votre relation proche pendant une douzaine d'années avec Glissant. Juste un mot, avant d'évoquer les années américaines que vous avez connues ensemble, il s'intéressait autant aux philosophes que vous êtes, aux conversations philosophiques avec vous, qu'aux récits de vos aventures amoureuses. Vous questionnez même davantage sur ça.
Sur des sujets intéressants, non? Et qui peuvent donner lieu à bien des réflexions, bien des conseils.
Bon, on ne va pas parler de toutes les femmes de Glissant. On va commencer.
Vous voulez dernière intro?
La plus importante. Alors je ne porte pas de jugement moral, vous non plus. Mais la plus importante, c'est évidemment sa mère.
Bien sûr.
Il a 60 ans. Il est glorieux. Elle est encore en pleine forme. Elle en a 90 passés. Et elle manque de lui foutre une gifle.
Oui. Alors vous avez raison de dire que c'est la femme de sa vie, pardon pour les autres, mais en fait c'est elle qui a déterminé son destin, qui lui a créé un destin. C'est une mère qui était analphabète, il faut le dire, mais qui considérait que la réussite scolaire était essentielle. Et effectivement, c'est à coup de grandes torgnoles qu'elle a éduqué son fils.
Et toute la famille.
Oui, entre parenthèses, il en a gardé quand même des marques sur son corps très longtemps, mais il était indispensable agréable, qu'il soit absolument impeccable et qu'il aille à l'école et qu'il récite ses leçons. C'est étonnant parce qu'en fait, elle ne pouvait pas, bien sûr, lui faire réciter le français. Je vous rappelle que le français était obligatoire, qu'il fallait surtout ne pas parler créole à l'école. Mais elle tenait à ce que son frère et ses sœurs lui fassent réciter ses leçons et qu'il soit absolument un bon élève, ce qu'il est devenu.
Et il faisait excellemment de la version latine en se tenant droit au lycée Schœlcher de Fort-de-France. Le père s'occupe moins de son fils, enfin, lui montre quand même les charmes d'une société riche qu'il ne connaît certes pas dans la maison de sa mère.
Oui, le père vit sur les habitations, il travaille comme géreur, et il ne le reconnaît en fait que lorsque Édouard a 10 ans, au moment où il obtient une bourse pour aller au lycée Schœlcher. Et là, c'est quand même un signe aussi que la réussite scolaire est un critère important pour l'émancipation, pour l'ascension sociale. C'est qu'à partir du moment où il sait que ce fils, il en a bien d'autres sur les habitations, ce fils donc devient quelqu'un d'important, qui peut aller à l'école, qui peut aller au lycée, il a une bourse, à ce moment-là, il le reconnaît. Et donc, Édouard Glissant s'appelle Mathieu Godard, eh bien, il devient à ce moment-là Édouard Glissant, du même nom d'ailleurs que son père, c'est intéressant. C'est Édouard Glissant.
Du fait de ses mérites scolaires.
Voilà.
Et après le lycée Schœlcher, eh ben c'est l'université, le passage à Paris où il découvre la neige. Très important, la première neige pour lui.
Oui, dans Soleil de la conscience, d'ailleurs, il décrit ces moments, ces paysages. Pour lui, le paysage, c'est un mode d'accès au monde. Comprendre le monde, c'est savoir regarder ces paysages. Et de fait, Paris, c'est non seulement la ville, mais c'est aussi la neige. C'est découvrir des climats, découvrir donc tout un univers qui est autour pour lui de la Sorbonne, parce qu'il essaye de... Donc je dis il essaye parce qu'il n'est pas très très assidu. Il a envie de rencontrer tous les poètes de Paris. Mais il fréquente différents milieux, dans une très grande pauvreté, il faut le rappeler, parce que la neige c'est poétique, mais quand on doit coucher le soir et fracturer les portes de voiture pour essayer de trouver un endroit où dormir, c'est moins poétique.
Ce dont se souvenait dans une émission de France Culture, Le Bon Plaisir, son ami de jeunesse, qui est resté un ami de toujours, Pierre Auster.
Édouard est un oiseau des îles, cette espèce de dieu vivant parmi nous avait conçu le grand dessein à 22, à 23 ans, à 24 ans, non pas de vivre de sa plume, ce à quoi il n'a jamais songé, mais de vivre tout simplement parce qu'il était là, jeté parmi nous, dans une société certes peu accueillante, mais dans cette société peu accueillante, il se trouvait que certaines personnes tournaient vers lui des regards favorables. Et au fond, d'une certaine manière, cela lui suffisait. Il n'avait pas compris que les hivers n'étaient pas des hivers martiniquais, que la nourriture était chère. Bref, quand j'ai connu Édouard Glissant, je peux vous dire qu'il offrait l'aspect d'un homme non pas réduit à la pauvreté, parce que jamais on ne réduira Édouard Glissant à quoi que ce soit, mais vivant dans une pauvreté réelle et tout à fait insoucieux de l'avenir. Ce poète, ce romancier, cet homme de théâtre, d'une certaine manière, est bâti sur un patron que nous ne connaissons pas, nous autres écrivains de Paris ou de France. Il apparaissait comme quelqu'un qui avait décidé de, comme il le dit, de crier le cri de poésie et de ne pas se soucier de savoir si les circonstances dans lesquelles il s'engageait allaient lui permettre de continuer à subsister.
Certains regards lui étaient favorables. Une histoire amoureuse parmi d'autres, puisque vous parliez de vos histoires amoureuses, si j'ai bien compris, l'un et l'autre. La première femme blanche qu'il ait connue à Paris, c'est très important ça.
Oui, je crois, effectivement, on peut citer son nom, Monique Drake del Castillo. Il la rencontre à un moment donné à la galerie du Dragon, et c'est, Pierre Auster me l'a raconté, effectivement, le passage à une certaine vie confortable, sinon luxueuse, et qui le transforme, et qui n'est pas simplement une affaire anecdotique, parce que c'est quand même au moment où il la rencontre qu'il se met à écrire, lui qui était poète et qui se veut toujours poète, qui s'est toujours voulu poète, il se met à écrire un roman au moment où il est avec elle, et il obtient le Renaudot. Donc c'est quand même ici un virage qui est lié, je ne dis pas que cette femme est la cause, mais il est quand même lié à la rencontre de cette personne qui lui fait découvrir un autre monde, un monde un petit peu luxueux, un monde, alors pour dire ça de manière simpliste, un monde de blanc, mais c'est pas simplement ça, un monde de théâtre aussi, parce que c'était une comédienne connue.
Et après le Renaudot, 58, il a 30 ans, la télévision, c'est la deuxième fois décembre 58 qu'il passe à Lecture pour tous, et ici c'est avec Pierre Desgroupes.
D'un point de vue du quotidien, par exemple, il est amusant d'observer que les populations antillaises sont catholiques, vont à la messe le dimanche, pratiquent autant qu'ici l'appel au médecin et ne dédaignent pas l'appel au sorcier, qui est l'héritier direct des sorciers africains. Et ceci sans contradiction, sans drame, d'une manière tout à fait naturelle. C'est un troisième style de civilisation qui est créé là-bas. Et on assiste à des phénomènes curieux. Les blancs colons sont extrêmement sensibles aux superstitions africaines contre lesquelles ils ne s'élèveraient pour rien au monde. Et les autochtones, les Antillais, sont extrêmement sensibles à des préjugés français contre lesquels ils ne s'élèveraient pas non plus. Il y a là une harmonie, en quelque sorte.
C'est comme ça que commence à s'élaborer ce qui s'appellera plus tard le discours antillais, mais alors là, sur un mode presque harmonieux, dit-il, calme.
Oui, sans doute, c'est un petit peu exagéré.
Mais le calme est exagéré.
Oui, le calme, l'harmonie aussi, peut-être joue-t-il un petit peu le jeu de l'écrivain qui doit être reconnu en France, mais c'est vrai que là, on a les ferments d'une réflexion, on peut dire anthropologique, qui va donc donner lieu à peu à l'écriture des nombreux textes qui fourniront le matériau du discours antillais, c'est-à-dire d'une société qui n'est pas simplement définie par le colonialisme avec les colons et les colonisés, mais qui, aux Antilles, parce que c'est quand même tout l'enjeu de l'œuvre d'Edouard au départ, c'est de ne pas en rester à l'afrocentrisme, de ne pas en rester à la société des Noirs, à la société des Blancs, mais de penser ce qui s'est manifesté, non pas dans la joie et l'harmonie, mais ce qui s'est passé dans le chaos, dans la lutte, dans les mélanges, ce qui s'est fait aux Antilles, c'est-à-dire la création d'une culture qui est passée par des échanges imprévus.
Oui, alors des métabolismes, mais il y a aussi des affrontements, parce qu'un an après cette interview, c'est les trois journées d'émeute, qu'on a appelées parfois les trois glorieuses de Martinique. Alors, ça commence comme ça, un automobiliste blanc renverse la Vespa, d'un docker, qui bien sûr est noir, il s'en va sans rien dire, le docker le poursuit et lui assène un coup de poing. Et ensuite ?
Et un rassemblement s'est constitué autour d'eux. Il y avait un métro, il y avait un nègre bien noir, pas grand, un métro assez costaud. Donc, le blanc était en minorité, les noirs étaient en majorité.
Quelqu'un dit que des Français et des Martiniquais, des Blancs et des Noirs sont en train de se battre.
De temps, on a dit ça. Le propriétaire du bar, comme c'était Pied Noir, ils ont dit que c'était Pied Noir, c'est après j'ai su ça, moi. Il a sonné les CRS. Il y avait tellement de gens qui couraient comme ça, avec des gaz à crème, ça brûlait les yeux, partout comme ça. Et puis lui, il avait peur, moi j'avais peur, moi.
Bon, on peut appeler ça une insurrection, on peut appeler ça une révolte, c'est pas encore la révolution, bien sûr. Mais vraiment, on s'est vraiment battu, mais physiquement. Là, d'ailleurs, il y a eu trois morts, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même trois morts. Rosil, Marajo et Betzi, il y a eu quand même trois morts. Et sans compter les affrontements avec les forces de police. Il y avait un commissariat de police à la place Staline, quand je ne sais pas si vous en souvenez, mais enfin, il y avait un commissariat de police là. Bon, ben, on l'a brûlé aussi, à commencer par moi d'ailleurs, parce qu'il y avait un poste d'essence là. Bon, ben, j'avais une Vespa à l'époque, je me souviens que je suis allé acheter un demi-litre d'essence. On a balancé ça dans le commissariat, et puis clac, bon, on a craqué une allumette, et puis on a brûlé un commissariat. Mais c'était pas du tout, un acte gratuit, de délinquance, c'était pas ça du tout. C'était un geste, vraiment un geste militant, un geste politique qu'on faisait parce que nous avions le sentiment de lutter contre les forces d'oppression.
Alors le jeune glissant, calme, c'était un reportage de la Fabrique de l'Histoire de France Culture qu'on entendait tout à l'heure, il est quand même très sensible à la cause des émeutiers, plus qu'Aimé Césaire, le député maire de Fort-de-France, un pavite qui a choisi la départementalisation. Il s'intéressera ensuite de très très près à l'Algérie, bon, je ne savais pas qu'il avait été agent de liaison du FLN en Algérie, à Cuba qu'il visite. Le discours tiers-mondiste de ces années-là sur les indépendances,
Oui. Alors, effectivement, il y a presque deux glissants qui sont un petit peu clivés. Le glissant qui profite du milieu littéraire parisien, qui jouit de son succès du Renaudot et passe les soirées à la Coupole. Et puis, il y a le glissant qui s'intéresse au mouvement indépendantiste, qui est le compagnon d'Albert Béville, qui va à la résidence d'Antony retrouver les étudiants qui commencent à être effectivement très mobilisés par rapport à ce qui se passe aux Antilles, et qui, peu à peu, s'engage du côté des mouvements indépendantistes, s'engage, alors évidemment il y a aussi des fréquentations comme Katab Yassine qui l'y incite, il est pris dans le soutien au mouvement des indépendances africaines et au Maghreb, et il, au point qu'il va créer avec quelques autres un mouvement indépendantiste, enfin qui s'appelle le Front Anti-Guyanais pour l'Autonomie, ensuite effectivement il part à Cuba pour prendre une sorte d'enseignement à la fois indépendantiste et aussi marxiste, parce que là on sent, ça va donner au discours antillais, toute une série d'analyses qui sont tout à fait redevables à l'analyse des, donc au décryptage des conditions, des positions sociales et des conditions économiques. Donc là effectivement Glissant, il va le payer assez cher d'ailleurs, hein, puisque le mouvement va être interdit, Glissant s'engage, prend des risques, comme vous l'avez rappelé au moment d'Algérie, va essayer de faire passer les déserteurs martiniquais au Maroc pour qu'ils puissent rejoindre le FN en Algérie. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de le rappeler, mais en tout cas, il a été ensuite interdit. De Gaulle et Debré font interdire, vous vouliez peut-être le signaler, mais le font interdire le mouvement, et il est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il est alors c'est un comble, il est interdit de retour en Martinique et en Guadeloupe.
Alors ensuite, au bout de 4 ans, il va revenir en Martinique, il va y fonder un institut d'études martiniquaises important, puis vous avez cité plusieurs fois le discours antillais, c'est le texte, encore très politique, assez classique d'un point de vue révolutionnaire, qui d'ailleurs va lui servir de sujet de thèse en 1980, premier versant. Deuxième versant, alors là, ça va être plus intime, parce que vous allez parler en territoire anglophone, l'un et l'autre. Alors vous avez appris l'anglais par la musique, François Nudelman.
Oui, comme beaucoup, en écoutant des groupes de rock.
Oui. On va entendre Genesis et Glissant, que vous rencontrez aux États-Unis, où vous passez beaucoup de temps l'un et l'autre. Lui, il l'a appris en regardant les matchs de foot.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de François Nudelman, qui publie une biographie chez Flammarion d'Édouard Glissant, le grand écrivain mort en 2011. Vous vous êtes connu les 12 dernières années de sa vie. Vous enseignez aux États-Unis. Il enseignait aux États-Unis parce que, bien que muni d'un doctorat, c'était plus facile pour lui de trouver un poste à Bâton Rouge, puis à New York. Alors, j'ai compris que vous parliez de vos aventures amoureuses, que vous parliez un petit peu de philosophie, pas seulement. Comment c'était les conversations avec lui? D'abord, de quel droit, vous, un blanc, traitiez-vous des sujets qui le passionnaient? Il y a certains des amis de Glissant qui devaient vous regarder de surplomb.
Oui, effectivement, c'est un problème de légitimité à parler d'une histoire qui n'est pas forcément celle de sa généalogie. Mais je crois que Glissant a sans arrêt montré que les mémoires se croisaient et qu'on n'avait pas forcément à penser en tant que descendant d'eux. Et donc les conversations étaient bien sûr très libres. Je crois que c'est comme ça qu'on définit les affinités, non? C'est-à-dire la rencontre de différences et non pas de ressemblances. Donc une affinité peut-être improbable, je ne sais pas, mais en tout cas c'est créé. Bon, d'abord elle vient de ma découverte de son œuvre, la découverte de Poétique de la relation, qui pour moi a été un choc et qui m'a donné envie de le rencontrer. Donc je suis allé vers lui et effectivement ensuite, comme on habitait quand même à côté l'un de l'autre, donc sur Washington Square.
Mais vous n'aviez pas le même New York, parce
non,
que vous oui. étiez toujours en train de courir par Mont oui. et par Vaux, une sorte d'activiste new-yorkais. Et lui, vous le décrivez, est-ce que c'est le souvenir des nuits des Antilles, mûrissant la nuit, ses épopées
Oui, c'est très surprenant. Alors, vous rappeliez qu'il n'avait pas trouvé de poste en France et que aux États-Unis ou au Canada, effectivement, les écrivains dits francophones, eux, ont la possibilité de donner un magistère, d'avoir un magistère. Et New York, pour lui, n'était pas une ville qu'il aimait. Curieusement, il préférait la Louisiane, alors que même que la Louisiane est un pays où il y a une grand même une permanence de la discrimination, voire de la ségrégation noir-blanc.
De même, il était passionné par Faulkner.
Oui, absolument.
Le plus grand écrivain pour lui.
Absolument, pour lui, le plus grand écrivain du XXe siècle. Ce qui lui a apporté tort, d'ailleurs, auprès de pas mal de communautés de noirs qui étaient dans la revendication de l'identité, ce qu'il n'était pas, lui. Et donc, New York, pourquoi il n'aimait pas parce qu'au fond, c'est ça là aussi, il faut rappeler que même si on peut dire, oui, c'est le métissage, c'est voilà, il n'était pas pour le multiculturalisme. Pour lui, ce n'est pas du tout un modèle. Le multiculturalisme, c'est le fait que chacun ait sa différence, mais vivent donc à côté, sans se mélanger, sans se mêler précisément. Et donc, pour lui, selon lui, New York, c'était une série de quartiers à coller, mais sans véritablement communication. Et il ne se plaisait pas dans cette ville.
Enfin, tout de même, de Long Island, où il avait un appartement très fonctionnel et seulement fonctionnel, dites-vous, il lui arrivait de dire que c'était un endroit intéressant pour vous faire plaisir ou faire plaisir à ses employeurs.
Je vis aujourd'hui à New York. C'est un endroit intéressant parce que c'est un endroit de bouleversement dans tous les sens du terme, et positif et négatif. Mais je ne peux pas dire que vivant à New York, je suis plus près des bouleversements de la totalité monde qu'ailleurs. On ne sait pas si ce n'est pas dans une petite île ignorée du Pacifique que quelque chose de fondamental se passe pour le 21e siècle. Il me semble qu'il nous faut apprendre à vivre avec cette notion-là, parce que c'est angoissant de vivre avec la notion d'imprévisible.
Alors, si je comprends bien, pour lui, New York, c'était des sphères un peu étanches,
oui.
Même si vous faisiez le tuyau entre les sphères. Et l'aléatoire, l'imprévisible, on pouvait le rencontrer dans beaucoup d'autres endroits, davantage en Amérique latine qu'à New York, par
bien
exemple.
Sûr. Alors, vous entendez aussi la lège-loge des petits pays,
oui.
par rapport au grand continent, où peut justement s'inventer une société tout à fait inédite, et qui peut être même une sorte de, sinon de modèle, enfin de d'orientation pour le tout monde. Et il préférait les sociétés bon, créolisé, on va y venir, mais peut-être que pour lui, effectivement, l'Amérique du Sud, le Brésil en tout cas, était selon lui un pays où le mélange était réussi au point qu'on ne peut pas définir, selon lui, un type de Brésilien.
Mais la créolisation, c'est pas l'assignation.
Ce n'est pas l'assignation, ça voulait dire que ce n'est
l'assignation
pas...
L'assignation à résidence dans une culture, dans
surtout
une communauté.
Surtout pas, c'est la possibilité justement, alors c'était sa formule mantra, de changer en échangeant. Hein, c'est-à-dire la rencontre de l'autre, c'est le processus de la relation qui fait qu'on n'existe que dans cette relation et qu'on ne peut pas se définir à partir d'une identité, ni généalogique, ni de couleur, et que le mouvement même de l'histoire, si ce n'est en tout cas la grande histoire, mais le mouvement même de l'histoire des individus, c'est celui des rencontres et des transformations.
J'évoquais sa préface à Marie-Jo Pérec.
Oui.
C'est un texte intéressant parce que il raconte qu'elle garde en elle l'île, mais que elle est parallèle à plusieurs couloirs d'athlètes qui courent en même temps. Et ce qui est important, c'est la vitesse qui ne s'éteint pas.
Oui.
Alors créolisation. Précisons, allez une dernière fois. C'est la matinale de France Culture avec. Ali Badou.
On pourrait presque dire que le métissage, c'est une mécanique. Quand on fait des expériences avec des petits pois, les petits pois gris, petits pois noirs, deuxième génération, il y en a trois d'un côté, un de l'autre.
On peut les compter.
Troisième génération.
On peut les prévoir.
Le métissage est prévisible. La créolisation ne l'est pas, parce que la créolisation porte à la fois sur les individus et sur les cultures. Et l'unité de mesure d'une culture, ça n'existe pas encore. La créolisation, ce mélange des cultures, ce contact des cultures, sans que il y ait une confusion des cultures, c'est un mélange, n'est-ce pas, produit des résultats absolument inattendus.
Vous parlez d'identité généreuse, c'est votre titre, mais c'est presque d'identification qu'il faudrait parler, d'un mouvement, et l'identification, elle vient par la relation.
Oui, peut-être moins l'identification que la déroute, le détour perpétuel par justement l'imprévisible. S'il prend soin de dire qu'il ne veut plus utiliser le mot de métissage qu'il employait autrefois, c'est précisément pour penser la transformation, pour penser la relation elle-même plus que les éléments reliés. Et c'est là, on voit par rapport au discours antillais, tout le chemin parcouru par l'évolution de Glissant. Certains lui ont reproché d'être moins politique, mais pas du tout. C'était en fait une philosophie de la transformation qui n'en restait pas simplement aux identités aliénées, qui n'en restait pas à l'opposition entre noir et blanc ou dominant et dominé, et qui cherche à penser continuellement le change, hein, la transformation perpétuelle des individus et du monde.
Il n'aurait pas aimé le titre « La marge de l'histoire ».
Il n'aurait pas aimé vous ne mettez pas de majuscule à l'histoire. Bon, bah alors
non,
ça va, c'est essentiel.
La marche non plus. Mais
pas la marche forcée, mais de toute
façon.
Dans
la marche qui va droit, il n'y a pas suffisamment de détours.
Le devenir des histoires transversales.
Ouais. Et puis, un de vos chapitres s'intitule « Et si Carthage n'avait pas été détruite parce qu'il aimait beaucoup les Uchronies ?» Puis il aimait beaucoup, continuons à évoquer le contenu de vos relations, le jazz.
C'est absolument impossible de prévoir qu'une population réduite à l'état le plus bas possible, dans un esclavage terrible, produise la musique la plus grande du XXe siècle et qui est valable pour tous, c'est-à-dire le jazz.
Folks, here's a story about Mindy the Moocher. She was a red hot Uchi Coocher. She was the roughest of his frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Ho di ho, di ho,
ho di ho.
Et oui, voilà un exemple de créolisation. Il y a bien sûr les
Alors
langues.
Vous en parliez de Cab Calloway.
Oui, bien sûr.
Vous l'écoutiez ensemble.
Oui. Oui, puis bien d'autres. Et puis Billy Holiday, bien d'autres aussi. Alors, c'est un peu cliché, forcément. Voilà, noir égale jazz. Mais, mais en fait, il appréciait particulièrement cette musique qui est tout à fait imprévisible. Comment une musique comme ça peut naître depuis les chants de Cannes, depuis l'aliénation. Donc, à côté de la créolisation des langues, la créolisation des cultures et des populations, pour lui, chaque fois qu'il devait donner l'exemple prototypique de ce que c'est que la créolisation est réussie, parce que la créolisation peut être aussi subie, hein, attention, c'est pas toujours positif la créolisation, mais là, positivement, c'est le jazz qui incarnait pour lui cette philosophie de l'imprévisible.
Et où fait-il ses 80 ans ?
Au New Morning, bien sûr.
Et vous racontez aussi les dernières années du colosse Édouard Glissant, qui est mort en 2011. Votre livre, François Nudelman, vient de paraître. Il est tout chaud, sorti du four aux éditions Flammarion. Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco, Nicolas Delmas à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Et votre programme, Daniel Fievet, dans La tête au carré.
Bonjour Jean, nous aussi on raconte l'histoire de la domestication chien et du chat.
La domestication, c'est tout l'inverse de l'histoire telle que la conçoit Édouard Glissant. Il est 14h, vous écoutez France Inter.